Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui est encore très peu connue en France et pourtant qui touche 250 000 personnes, c'est le lymphœdème. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Éléonore et Laurie qui vont nous raconter leur histoire, leur parcours, la découverte de la maladie. Et grâce à elles, nous allons nous immerger dans leur quotidien qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être venue. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie ?
Alors, je m'appelle Éléonore, j'ai 47 ans. Suite au lymphœdème, je suis devenue consultante en éducation thérapeutique du patient et éducateur médico-sportif en oncologie. Je suis touchée par un lymphœdème depuis mon cancer du col il y a bientôt 12 ans. J'habite en Île-de-France, à côté de la belle forêt de Fontainebleau.
Laurie ?
Oui, bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
J'ai 35 ans, j'ai un lymphœdème depuis 4 ans, suite à un cancer du col également. Donc c'est un lymphœdème, comme on dit, secondaire du membre inférieur. Je suis donc ingénieure dans le milieu de la métallurgie.
Et tu habites ?
J'habite à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne, ok. Eh ben, merci à toutes les deux, en tout cas, de prendre le temps d'évoquer ce sujet. Avant qu'on rentre dans le détail, je pense que c'est important qu'on rappelle ce que c'est exactement le lymphœdème. C'est une maladie chronique et progressive qui est due à un dysfonctionnement du système lymphatique. Et souvent, cette pathologie, elle se caractérise par une accumulation anormale de la lymphe dans les tissus qui va entraîner une augmentation d'une partie du corps. Si vous avez d'autres choses à rajouter...
Sonia, c'est très clair ce que tu as dit. Ce qui est important, c'est le mot chronique. Ça veut dire que ça ne guérira pas et que dans le cas de nos lymphœdèmes secondaires avec Laurie, c'est qu'il y a des obstacles qui empêchent le bon fonctionnement du circuit lymphatique.
Donc, il y a certaines parties du corps qui sont touchées par le lymphœdème. Donc, vous nous avez dit que c'était les membres inférieurs. Mais il y a d'autres organes qui peuvent être touchés, par exemple le visage ou encore le cou. Vous le disiez tout à l'heure, donc vous, toutes les deux, vous êtes atteintes d'un lymphœdème de type secondaire. C'est lymphœdème le plus fréquent qui est dû à une altération du système lymphatique et qui est consécutif à un traitement suite à un cancer, qui peut être aussi suite à un traumatisme ou secondaire à l'évolution d'une maladie comme la maladie veineuse. Mais il y a un autre type de lymphœdème, c'est le lymphœdème primaire, qui est assez rare et qui est, lui, lié à une malformation d'origine génétique. Alors, pour vous, vous êtes atteinte d'un lymphœdème secondaire. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le diagnostic? Comment vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal? Vers qui vous vous êtes tournée? Comment ça s'est passé?
Pour ma part, suite à mon cancer, j'ai été suivie par une kiné pour divers petits réglages, on va dire, post-cancer. Et j'ai ma jambe qui a commencé à enfler. C'était à la période du printemps-été. Donc je lui ai posé des questions pour voir si c'était veineux, si c'était un problème de ce qu'on appelle rétention d'eau classiquement, on va dire. Ouais. Et là, tout de suite, elle m'a dit il y a peut-être quelque chose qui va pas suite à mon passif. Elle m'a assez bien orientée parce que j'avais la chance d'être chez une kiné qui fait partie du cercle rose, donc il y avait l'habitude de voir des lymphœdèmes, surtout du membre sup. Et du coup, après, j'ai pu aussi m'orienter par connaissance personnelle. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Vers une kiné qui avait un DU de lymphologie, qui faisait des phases d'attaque et qui a tout de suite posé le diagnostic comme quoi c'était un lymphœdème et qu'il fallait traiter ça sérieusement et être bien équipé.
Donc le premier point d'entrée, ça a été le kiné.
Oui.
Et Éléonore, pour toi, comment ça s'est passé ?
Alors moi, j'avais été prévenue par l'équipe chirurgicale que s'il retirait les chaînes ganglionnaires et qu'en plus avec la curithérapie, la radiothérapie, je pouvais déclencher un lymphœdème. Ça n'a pas loupé, j'ai déclenché mon lymphœdème le lendemain de la première chirurgie.
D'accord.
Au niveau de la jambe, mais aussi au niveau du petit bassin du pubis et des organes génitaux. Après, j'ai pris rendez-vous avec une kinésithérapeute. En revanche, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver dans ma zone géographique un kiné qui soit spécialiste de la prise en charge du lymphœdème au niveau de la jambe. J'ai eu quelques mois d'errance thérapeutique avant d'être prise en charge par un centre expert dans la prise en charge du lymphœdème. Et à partir de ce moment-là, j'ai été bien aidée avec tous les conseils, la prise en charge thérapeutique.
C'est intéressant parce que du coup, donc Éléonore, toi, ça s'est vraiment déclenché tout de suite après ton intervention. Toi, Laurie, ça a été un petit peu plus long.
Ça a été un an après.
Un an après.
Environ.
Et un lymphœdème peut survenir dans les 5 ans suivant un traitement. On le voit dans votre cas, voilà, toi, Éléonore, ça a été assez soudain, Laurie un petit peu plus tard. Donc, il ne faut pas minimiser, en fait, le temps, j'imagine, après l'intervention. Il ne faut pas se dire, c'est bon, le risque n'est plus là, il faut l'avoir en tête.
Contrairement, du coup, à toi, Éléonore, on m'a peut-être mise en garde sur le lymphœdème, mais c'est quelque chose que je n'avais pas intégré. Donc, quand on m'a posé le diagnostic, pour moi, c'était une découverte. Je pense que j'étais dans ma phase post-cancer et donc de récupération. Et tous ces petits soucis secondaires, j'ai certainement dû les occulter. On a dû m'en parler, mais je n'avais pas retenu tout ça.
Donc justement, comment vous avez vécu l'annonce? Comment vous avez vécu cette période-là?
Ce qui est important sur l'infodème, c'est plus on agit précocement quand il survient, mieux on a des chances de le prendre en charge. Pour ça, il faut avoir repéré qu'on a un lymphœdème. Donc moi, ça a intervenu tout de suite, mais j'ai eu un petit peu de retard dans la prise en charge. Et deuxièmement, ça m'a apparu comme un choc, quand ma jambe a gonflé le lendemain. Je me rappelle avoir arrêté mon chirurgien pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe est énorme. » Il m'a pas répondu, il est passé devant moi. Et puis deuxième chose, plus dur que l'annonce, je n'avais pas compris que c'était chronique. Pendant quelques années, j'ai espéré et même cru que le lymphœdème allait disparaître.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure, tu insistais sur le fait que c'était une maladie chronique.
Oui, et ça a été dur à digérer de savoir que mon lymphœdème, je vivrais avec.
Après l'annonce, pour vous, ça a été quoi la suite? Au niveau du traitement, est-ce que vous saviez vers qui vous tourner, qui consulter, quel type de produit ou quel type de traitement mettre en place, ou ça a été le flou, on peut dire? Au niveau de votre parcours de soins, vous l'identifieriez comment?
J'ai eu l'impression qu'au début, c'était facile parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes connaissant la pathologie. Donc, ça s'est fait facilement. On m'a pris en charge en phase d'attaque. On m'a dit, il faut prendre des produits compressifs, il faut faire les bandages. On m'a appris pendant ces phases d'attaque à faire mes autodrainages, mes bandages. Et j'ai envie de dire, malheureusement, cette personne qui faisait l'activité là où j'allais est partie, a changé de région. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule à devoir me débrouiller. Ça a duré pendant 2 ans où la prise en charge s'est très bien passée pour moi. J'avais, on va dire, ma kiné du quotidien que je vois 2 fois par semaine à côté de chez moi. Et cette autre kiné plus spécialisée qui me faisait ses phases d'attaque. Et donc, au bout de 2 ans, elle est partie. Et c'est là où je me suis rendu compte de la difficulté de cette prise en charge. Que personne vraiment conseille. Quand on a son suivi post-cancer, tous les médecins qu'on voit, ils voient qu'on a un lymphœdème, mais ils n'ont pas grand-chose à nous dire. C'est pas leur spécialité.
Tu vois, Éléonore qui acquiesce, ouais.
Moi, au début, ça s'est très bien passé. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc, je me suis tournée vers d'autres solutions qui ont un effet bénéfique, mais peut-être pas aussi impactant que la phase d'attaque en elle-même. J'ai l'impression de revenir un peu en arrière ou revenir comme beaucoup de patients au démarrage où il faut trouver son cercle de praticiens et de spécialistes pour se débrouiller et avoir toutes les solutions possibles et pour pouvoir discuter aussi avec les labos qui proposent des produits différents.
Donc assez fermé du coup.
Oui.
Et Éléonore?
Alors moi, à la différence de Laurie, j'ai pas eu cette équipe très spécialisée au départ. Ce qui m'a aidée, c'est d'aller en cure thermale. Pour apprendre un peu les auto-soins. Je n'avais jamais fait de bandage de ma vie, j'avais jamais fait d'auto-drainage, etc. Je connaissais pas trop la compression. Je suis allée dans une cure thermale dans les Pyrénées. Et là, j'ai repris un peu de le pas sur le lymphœdème et je me suis dit, bon, je vais peut-être pouvoir me débrouiller avec. Donc, les premières années, ça a été facile parce que je suis retournée en cure thermale et que j'ai eu plus de difficultés en revanche, comme Laurie après. Parce que reprise par la vie de tous les jours, la vie professionnelle, la vie familiale, moi, dans ma zone géographique, j'ai pas de kiné qui me suit toutes les semaines. J'ai plus de difficultés dans la semaine à prendre le temps pour le drainage ou des choses comme ça. Donc, j'ai mis d'autres stratégies en place dont on parlera certainement. En revanche, j'ai la chance d'être prise en charge par un centre expert très loin de chez moi. À l'autre bout de la France, mais je suis très bien suivie par des médecins.
Et du coup, tu y vas régulièrement dans ce centre?
Ouais, j'y vais. Je fais beaucoup d'infections qui sont liées au curage ganglionnaire, des infections érysipèles tous les mois. Et là, j'ai un suivi très spécialisé et là, c'est super. J'ai une très bonne kinésithérapeute, mais je manque de temps
pour y aller régulièrement. Ouais. Donc, assez quand même démunie dans le parcours de soins, vous me le confirmez toutes les deux.
Oui.
Et au niveau du dialogue avec d'autres patientes, est-ce que ça a été facile, compliqué? Est-ce que voilà, les mises en relation se font de manière fluide ou pas du tout?
On rencontre via les réseaux sociaux pas mal de patients ou de patientes, mais qui sont plutôt touchés par un lymphodème primaire. Moi, j'ai senti plutôt ça, ou alors un lymphodème secondaire du bras
oui,
après un cancer du sein.
C'est vrai qu'on en voit souvent.
Quand on est touché d'un lymphodème après un cancer gynéco à la jambe, c'est très particulier d'avoir une jambe qui est plus grosse que l'autre. Déjà, le cancer du col ou les cancers gynéco, c'est 15 000 patients par an, donc c'est très peu. Cancer du col, c'est 3 000 patients par an. Donc moi, je me suis sentie assez seule. J'ai pas rencontré beaucoup d'autres patientes qui avaient eu la même chose que moi. On est un peu tout seul à vivre sa pathologie. En revanche, via la porte d'entrée, activité physique et sport, là, j'ai rencontré d'autres patientes. Je sais pas ce que t'en penses, Laurie.
Pour moi, c'est, je pense que je suis encore dans la nouveauté. Ça fait que 4 ans et comme je disais au départ, ça se passait très bien et maintenant, ça se passe un peu moins bien. Donc, il faut que je me recrée mon réseau. Ça fait peu que je suis dans une association et ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer d'autres patients, de se comprendre. Aussi, à travers la cure, j'ai rencontré d'autres patients. Alors, effectivement, beaucoup de membres supérieurs. Le membre inférieur a l'air un peu, des fois, oublié. On doit moins en parler, je pense, ou il y a moins de patients, tout simplement. J'ai l'impression que sur le membre inf, c'est beaucoup des primaires, effectivement. Très peu de secondaires. Et au final, les lymphodèmes du membre inférieur que j'ai rencontrés étaient plutôt des hommes en primaire. Et des femmes en secondaire, j'en ai pas beaucoup rencontrées. Évidemment, beaucoup, beaucoup de personnes membres supérieurs, beaucoup suite à des cancers du sein. Et du coup, on peut pas comparer, retrouver des astuces, des petits conseils, des choses comme ça, parce que c'est complètement différent. On traite pas de la même façon. Même en prévention, le membre supérieur, je pense que toutes les dames qui ont eu un curage ganglionnaire, on leur dit « attention, ne portez pas de charge sur ce bras-là », etc. Nous, au niveau de la jambe, on est bien obligé d'être sur nos deux jambes et de marcher. Donc, la prise en charge est complètement différente. Donc, c'est vrai que ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont la même pathologie et d'en discuter pour pas se sentir seul et pour aussi échanger peut-être des astuces.
Alors justement, à un moment, vous parliez d'associations. Est-ce qu'il y a des associations de patientes ou d'autres choses qui existent? Et est-ce que vous en faites partie?
Je fais partie de l'association Vivre Mieux le Lymphœdème, qui m'a vraiment aidée au départ avec les ateliers d'auto-soins, auto-bandage, auto-drainage. J'ai créé une association qui s'appelle Lymphosport pour accompagner les patients atteints de lymphodème par l'activité physique adaptée. Et puis, comme je ne trouvais pas chaussures à mon pied, par rapport à des patientes atteintes de lymphodème après des cancers gynécologiques, moi, je me suis beaucoup investie, j'ai rejoint Imagine, c'est une association de patientes, et je suis chargée de communication pour l'association, de patientes qui sont atteintes de cancer gynéco. Et dans l'association, on a aussi des patientes qui ont été touchées par des lymphodèmes. C'est important, c'est vrai, de se rapprocher d'associations de patients, parce que voilà, on est moins seul, on peut échanger, mais on peut aussi mutualiser nos combats pour faire reconnaître la pathologie.
Moi, c'est récent, je fais partie de l'association Lymphœdème Rhône-Alpes. Après, j'ai eu connaissance de beaucoup d'associations au travers des cures qui ont quand même des carnets d'adresses d'associations, de médecins, de kinés par région. Ça nous permet de rassembler toutes ces informations-là, vu que quand on est en cure, moi aussi j'étais en cure dans les Pyrénées, c'est pas du tout ma région, mais j'ai pu trouver des informations sur la région où je vis.
Laurie, tu parles de cure, Éléonore, tu parlais d'auto-bandage. Au niveau du traitement de votre lymphœdème, qu'est-ce que vous faites au quotidien et comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, du coup, ce que vous avez trouvé pour, on va dire, maintenir en fait ce lymphœdème?
Je pense que l'une des pierres angulaires du traitement du lymphœdème, c'est les bandages. Par sa kiné ou son kiné, si on a le temps d'y aller, c'est la meilleure des choses. Malheureusement, moi qui suis assez prise, je fais mes auto-bandages un peu à la demande quand je sens que ma jambe est en train de prendre du volume. Là, par exemple, j'ai mon sac de bandage avec moi. Voilà, je suis en déplacement, je vais le faire à l'hôtel ce soir ou dans la journée.
Ouais.
Donc, le bandage. Deuxièmement, le drainage chez le kiné ou l'autodrainage. Donc, le soir, quand je suis un petit peu... j'ai de l'œdème, qui arrive assez souvent, je me fais un autodrainage ou une mobilisation de ma jambe ou du petit bassin. 10 minutes. Et la troisième chose importante pour moi, Et ça, c'est la chose que je ne supprimerai jamais, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que je vais solliciter mon système respiratoire et mon système musculaire, et donc ça va améliorer le retour lymphatique. Et ça, quoi qu'il se passe, même si j'ai une journée de travail hyper chargée, soit je fais de la marche nordique, soit je fais de la marche rapide, si je peux aller nager, je vais nager, je fais du vélo, ça, c'est les trois pierres angulaires de mon traitement, auxquelles je rajouterai celle que on ne peut pas oublier, donc la quatrième et la plus importante, c'est la compression ou les vêtements compressifs. Ça, avant de mettre le pied par terre chaque matin, j'enfile ma compression, donc mes bas en superposition et ma gaine de compression. C'est plus important que tout. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme je respire, je mets ma compression.
Laurie,
j'essaye de faire 2 séances de kiné par semaine qui me fait des drainages. Plutôt le matin, le rendez-vous, comme ça, c'est un bénéfice pour
la journée.
Pour la journée. Et aussi, bah, ça matche un peu plus avec mon planning professionnel. Je ne peux pas faire ça tout le temps parce que il m'arrive régulièrement d'avoir des déplacements professionnels. Donc du coup, bah voilà, quand je suis en déplacement, j'ai pas ce traitement-là. Je porte, comme l'a dit Éléonore, des collants et des chaussettes compressives. Donc tous les jours, un peu le même principe. Je me lève, je les mets, je prends la douche avant. Mais voilà.
Juste au niveau de la compression, vous êtes en classe combien ?
C'est un collant classe 3 plus une chaussette classe 3, sur mesure, bien évidemment.
Et moi, c'est 2 bas l'un sur l'autre,
ouais.
Classe 3 plus classe 3. Et j'ai un dispositif en plus sur le mollet.
D'accord.
Voilà, qui contient.
Contrairement à Éléonore qui dit je fais des autodrainages ou des bandages à la demande selon mon lymphœdème, moi j'ai l'impression d'avoir tout le temps mon lymphœdème. Je fais tout le temps mes bandages. Alors je les fais plutôt le soir. Si j'arrive à me poser chez moi, je les fais en arrivant chez moi. Sinon, c'est quand même plutôt au coucher et je le garde toute la nuit. C'est compliqué après d'allier sa vie perso et pro avec ce lymphœdème. Donc, c'est ce que je fais de façon régulière. Les autodrainages, j'ai vraiment du mal à les faire. J'ai les techniques, on m'a éduqué à faire tout ça. C'est quelque chose que j'arrive pas à... Enfin, c'est pas que j'arrive pas...
C'est pas un manque de temps.
Non, c'est l'envie. J'ai pas envie de me faire mes autodrainages, je pense.
Mais Laurie, tu fais les bandages chaque nuit ?
Quasiment.
C'est super.
Quasiment. Donc, j'ai trouvé des astuces pour faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible. Par exemple, le bandage des orteils, j'ai changé ça avec un couvre-orteil. On l'enfile et ça prend 30 secondes. Après, j'ai un vêtement compressif et je mets après le bandage par-dessus que je garde toute la nuit. Voilà, ça me fait du bien. Et je fais de l'activité sportive. Alors, peut-être moins de façon quotidienne. Moi, ça va être réparti sur la semaine. J'essaie d'avoir... 3-4 séances de sport par semaine.
Quand vous vous déplacez, comment ça se passe ? Éléonore, tout à l'heure, tu disais que tu avais ton sac de bandage avec toi. Tu l'emmènes tout le temps ?
Alors pour moi, c'est une façon d'être autonome, de me rassurer aussi en me disant que s'il y a une augmentation de ma jambe, je vais pouvoir gérer. C'est aussi une façon de défatiguer la jambe. Parce que c'est du confort aussi, hein, de faire un bandage. On se sent mieux après quand même. Et puis, si je suis dans un déplacement qui a un hôtel avec une piscine, eh ben, je vais aller marcher un peu dans l'eau ou nager. On met des coussins sous son lit pour essayer d'élever un petit peu la jambe. Voilà des petites astuces pour au quotidien être un peu moins impacté.
Pour les déplacements professionnels, donc moi, c'est quand je dis déplacement professionnel, c'est souvent à l'étranger. Donc, il y a prise de taxi, prise d'avion, les piétinements dans les aéroports, les choses comme ça. Donc, forcément, c'est des journées qui sont compliquées pour moi parce que on sent que ça a tiré sur la jambe. Donc, j'ai le même principe qu'Éléonore, c'est-à-dire que quand je prends ma carte de chambre d'hôtel, la première chose que je leur demande, c'est des coussins en plus parce que c'est inévitable. Moi aussi, également, j'ai mes sacs, mes petits baluchons dans ma valise avec mes bandages, avec tous les bas, les collants pour tenir la semaine, 15 jours.
Ouais.
Enfin, voilà.
Mmh.
Donc, souvent, je me fais un peu moquer par mes collègues masculins qui, eux, sont juste avec un sac de sport et moi, une très grosse valise. Mais effectivement, quand il faut et ses bandages et ses collants et ses bas, ça fait du volume dans une valise et c'est pas anodin.
Vous parliez de plusieurs types de produits. Est-ce que ces produits sont facilement accessibles ? Est-ce qu'ils coûtent cher ?
Les produits, en fait, utilisées pour le lymphodème, que ça soit les, ce qu'on appelle les bas ou les manchons contention, ou c'est plutôt compression, parce qu'ils sont élastiques. Beaucoup de pharmacies ou d'orthésistes les proposent. Après, ce qui est important, c'est que il y a plusieurs industriels qui en fabriquent, c'est de trouver la marque qui vous convient. C'est plus compliqué, il faut souvent tâtonner
tester.
Un peu. Et puis, il faut avoir des gens qui vous prennent bien les mesures. Mmh. Et ça, c'est pas forcément évident quand on a du sur-mesure. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Il y a une prise en charge, donc un remboursement. Après, pour tout ce qui est bandage, les mousses, les bandes, les vêtements compressifs, c'est-à-dire les bottes qui sont faites pour la nuit ou les gaines de compression, tout ça, c'est pas pris en charge. On a malheureusement en France un gros retard par rapport à d'autres pays européens. Il y a une étude qui avait été faite il y a 4 ans, amorcée par les centres experts en lymphologie, avec le soutien de, des associations de patients. Il y a à peu près 1500 euros de reste à charge, voire plus, pour les patients atteints de lymphodème par an.
Donc c'est énorme.
C'est énorme. Et il faut penser que les produits, que ce soit les bas ou les vêtements, bah, il faut les changer pour qu'ils gardent
leur efficacité et leur qualité. Ouais.
Au niveau des collants et des bas, ce que j'achète le plus régulièrement pour ces raisons d'usure, on les use d'autant plus en étant un membre inférieur qu'un membre supérieur. Ça aussi, je pense qu'il y a une petite considération à avoir. Moi qui porte aussi régulièrement des chaussures de sécurité, je vois que je les use très très vite. Il y a rapidement des trous dans ces produits. Je dis pas que les produits ne sont pas de bonne qualité, mais c'est le fait de l'utilisation un peu supérieure qui fait qu'on les use. Il nous en faut quand même beaucoup parce qu'il faut quand même une rotation, pour avoir la quantité suffisante. Et donc ces collants là, moi j'ai été obligée de prendre une surmutuelle. Donc, que je paye en plus de ma mutuelle. Donc, moi, j'ai une mutuelle d'entreprise. Donc, j'ai pas vraiment le choix des plages de remboursement. Donc, j'ai pris une surmutuelle. C'est vraiment ces produits-là qui, selon moi, attaquent. Et ceux-là, ils sont pas du tout pris en charge et remboursés.
Ouais, exactement. Ce dont parle Laurie, tout le matériel, c'est des indispensables pour nous. Comme une hôtesse de l'air aurait sa valise de cabine avec elle, elle est obligée. Nous, on est obligés d'avoir tous ces dispositifs. Pour en période de crise, parce que le lymphodème, il fluctue. Et quand on sent que par notre vie quotidienne, le lymphodème a beaucoup augmenté, à un moment donné, notre thérapeute n'est pas toujours là. On est obligé de faire réduire par nous-mêmes. Ou c'est ce que fait Laurie la nuit et c'est ce que je fais la journée, moi, quand je mets mes bandages. Donc, pour nous, c'est des indispensables qui, malheureusement, ne sont pas remboursés, tandis que c'est des produits de grande technicité. On a la chance d'avoir des industriels qui sont innovants et qui crée des produits efficaces. Malheureusement, la prise en charge financière par le système de santé ne suit pas pour les patients.
Vous parliez tout à l'heure de phase d'attaque, phase de maintien. Du coup, comme je comprends, il y a différents stades au niveau du lymphœdème. Vous traitez chaque stade de façon différente en fonction de l'évolution de la journée ou de la semaine, j'imagine.
On peut maintenir grâce à une compression, grâce à des bas, etc. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est pas toujours comme ça. Ouais. Il y a un moment donné où le lymphodème peut reprendre et ça, il va falloir refaire une phase d'attaque. Après, pour les stades du lymphodème, on peut dire qu'un lymphodème, on a tout été à un moment donné en lymphodème débutant où on est entre stade 0 et 1. C'est-à-dire que le lymphodème, il va régresser la nuit. Le matin, il n'y a pas de lymphodème. Et puis après, on va peut-être passer en stade 1 ou 2. C'est pas une histoire écrite. Aucun lymphodème ne se ressemble. Donc, c'est pas parce que moi, je suis comme ça que ça va être la même chose pour Laurie. Et puis après, on peut passer un peu en stade 1, voire 2, où le lymphodème, il va plus diminuer la nuit. C'est par rapport à ça qu'on va agir d'une façon plus importante à un moment donné.
C'est quand même une grande autonomie de votre part, une très bonne connaissance aussi de votre corps et de votre lymphodème. Est-ce que du coup, avec le temps qui passe, les années, ça, vous êtes plus en confiance et vous arrivez du coup à juger quand il faut faire les traitements nécessaires ou c'est quand même encore compliqué ?
Pour moi, c'est encore compliqué. Je pense connaître mon corps dans le sens où je sais qu'il y a des périodes, je sens que le lymphœdème, il va être difficile à éliminer. Je sens que le drainage est pas efficace parce que, voilà, je sais pas, on a peut-être un peu moins fait de sport, on a mangé un petit peu différemment, des choses comme ça. Contrairement à Eleonore, moi, c'est vrai que j'attends cette phase d'attaque qui soit une cure thermale ou une prise en charge hospitalière par un kiné très précis avec des bandages intensifs. J'essaye de bien la faire une fois par an parce que c'est aussi mon moment à moi. C'est ce moment où je pense qu'à mon lymphœdème, entre guillemets, et je m'occupe de lui. Le reste du temps, bah oui, il y a du loisir, il y a du pro, il y a la famille, tout ça. Donc, on maintient tout ça, mais peut-être moins bien que si on passe que ce temps dédié à ça. Donc, c'est vrai que moi, les 3 semaines que j'ai fait récemment en cure m'ont fait du bien aussi pour ça, pour m'occuper de moi et du lymphœdème.
C'est vrai qu'on peut, on peut s'essouffler un peu au long cours à le prendre en charge.
Ouais, j'imagine.
Parce que, y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où il y a des complications. Parce que, comme le disait Laurie, l'alimentation influe. On n'a pas forcément une alimentation équilibrée parce qu'on va plus piétiner, parce qu'on va voyager, etc. Parce qu'il va faire chaud. Dans ces cas-là, peut-être se retourner vers son kinésithérapeute ou son médecin vasculaire. Mais c'est vrai que l'autonomie de pouvoir se dire si j'ai pas un rendez-vous tout de suite chez mon médecin ou si j'attends la cure 6 mois et que je suis mal pendant 6 mois, j'ai la possibilité d'avoir ces outils, ces vêtements, ces bas ou ces bandages. Mais c'est vrai que il y a des moments où on en a un petit peu ras-le-bol.
J'imagine. Justement, aujourd'hui, pour vous, quelles sont les tâches les plus difficiles à réaliser au quotidien? Parce que du coup, il y a eu la vie, si on peut dire, avant lymphœdème, la vie avec le lymphœdème. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre quotidien? Et qu'est-ce qui est vraiment compliqué?
Je pense que tu as fait la même chose que moi. Tu as fait déjà le tri dans ta garde-robe et dans ton meuble à chaussures.
Oui.
Voilà, c'est déjà la première chose qu'on est obligé de faire. On ne peut plus s'habiller, se chausser de la même façon. Pour nous, le lymphœdème, membre inf. Évidemment, le sport, je n'ai pas les mêmes facilités qu'avant. Après, on s'adapte, notre corps s'adapte, compense de façon différente, on fait d'autres choses, voilà.
Tu continues quand même à faire du sport?
Oui.
Ouais. Et tu pratiques quoi?
Je vais en salle de sport, je fais pas mal de renforcement musculaire et du vélo. Et après, je fais un sport collectif qui s'appelle le korfball. Je fais la pub, tant qu'à faire. Donc, c'est un sport qui est un dérivé de basket hand, on va dire, voilà.
Okay.
Et pas mal de marche à pied après le reste du temps. Quelque chose qui me rappelle mon lymphœdème au quotidien, c'est la conduite de la voiture. Parce que il y a cet effet cisaillement des produits compressifs. On est obligé d'avoir toutes les deux d'avoir une double épaisseur. Mais ça a quand même un effet que, au niveau du coup de pied, ça cisaille un petit peu. Donc oui, quand sur les trajets longs, c'est un peu compliqué.
Éléonore, je te voyais réagir quand Laurie parlait de la voiture.
Alors, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, moi, le lymphœdème, avec la compression ou le bandage, quelquefois, j'ai mal parce qu'effectivement, ça cisaille. Donc, il y a la douleur du lymphœdème quand on porte toute la journée par la chaleur puis avec la lourdeur. Donc, ça a changé ça, c'est que maintenant, moi, je vis perpétuellement avec la douleur. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'étais une fan de shopping. Forcément, j'ai aussi écrémé mes sandales, les petites jeans slim, pas mal de choses dans ma penderie. Et puis, j'aimais beaucoup faire les boutiques. Alors, piétiner, c'est pas bon pour moi. Donc, ça, c'est une chose importante. Je le fais beaucoup moins. Deuxième chose, je faisais beaucoup de courses à pied, je faisais du triathlon. La course à pied, c'est devenu très compliqué pour moi parce que la jambe gonfle. Donc ça, j'ai adapté, j'ai remplacé par la marche nordique. Et puis, j'ai davantage peur, je suis moins aventureuse dans le sens où là, début septembre, j'étais inscrite à un 6 km en mer, une course de 6 km en mer. Le sable a des effets sur ma jambe qui sont pas terrible, ça va assez vite déclencher les infections, le sel, le sable. Donc ça a changé ça, je n'ai pas fait cette course que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis vraiment obligée de choisir mes activités de pleine nature. Les médecins disent « tout est possible avec le lymphodème », je ne suis pas tout à fait d'accord. Le lymphodème n'apprécie pas toujours tout. Voilà, donc ça a changé ça chez moi. Et puis les transports, Laurie a raison. Que ce soit les transports, le train, où je vais être un peu pliée en deux, assise, ou que ce soit la voiture, quand je dois conduire longtemps, le pied sur l'accélérateur, même chose, ça va empêcher le retour lymphatique. Donc c'est compliqué aussi
de faire
de voyager.
Des déplacements et de voyager.
De voyager. Ouais, de voyager. Donc moi, très sincèrement, hein, j'ai, par exemple pour les transports, si je dois rester debout très longtemps dans un bus ou dans un métro, eh ben, j'ai une carte priorité et je vais, si j'ai vraiment j'ai mal, je vais montrer ma carte et demander à quelqu'un de me laisser sa place.
Alors justement, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre image, le lymphœdème ?
Ça a changé mon image. Ça veut dire que maintenant, je m'occupe beaucoup du haut du corps. Je mets en valeur, en fait, les atouts qui sont au-dessus des jambes. Non. Pendant toute une période, je me suis sentie beaucoup moins sûre de moi. J'ai toujours quelques difficultés à montrer mes jambes sur une plage où j'attends le dernier moment pour enlever mes bas ou enlever mon pantalon, par exemple. Je vais plutôt me mettre en jupe l'hiver, en jupe courte l'hiver, quand j'ai des bas noirs.
Oui.
L'été, avec les bas beige, ça me plaît pas trop. J'ai eu un peu plus de difficultés à regarder mon corps.
Effectivement, je pense qu'on voit que notre lymphœdème. Dans un miroir, on voit que ça. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que j'en parle avec les gens, ils disent, bah, si tu me l'avais pas dit, je voyais pas qu'il y avait une différence.
Pareil. Complètement, mais complètement. Ouais.
Je pense que là où on a notre... On a une sensibilité, c'est effectivement quand on essaye un pantalon ou une paire de chaussures, ou on l'essaye en disant ça devrait aller parce qu'on se connaît. Maintenant, on sait, on a déjà éliminé toute une catégorie de choses qu'on ne mettra plus. Mais du coup, oui, c'est là où on prend un peu, on reprend ce lymphœdème dans le visage en disant bah si, ouais, en fait ça c'est pas beau, ça va pas, ça rentre pas, etc. Moi, personnellement, je reprends des chaussures à talons plutôt l'hiver qu'en été. Je vais plutôt être en petite basket, en petite chose comme ça. Parce que l'hiver, bah, les chaussures à talons fermées, ça c'est pas gênant. Que l'été, ben voilà, les chaussures à talons, tout de suite, on voit le pied, donc avec les basses, enfin, c'est pas esthétique, voilà. Quand je suis par contre en vacances, que je suis ailleurs, que personne ne me connaît, je mets mon bas, je mets mon short, et tant pis. Le bas se voit, il est... Alors en plus, moi, je porte que du noir. Tant pis, je tranche complètement, mais je le fais. Et bon, je sens que j'ai des regards qui se portent sur moi. Et bah, tant pis. Et après, je le fais aussi quand je pars avec des gens qui connaissent ma pathologie. Donc, je sais que ça va pas les gêner, tout ça. C'est vrai, quand on est dans un groupe où les gens nous connaissent pas et qu'on est comme ça, ça génère de la question. Mais pourquoi tout ça? Et des fois, on a juste pas envie de rentrer et d'expliquer le pourquoi du comment on a ça. Donc, la facilité, des fois, c'est on met un pantalon, on met des baskets et voilà. Personne voit rien.
Voilà. Est-ce que, pour conclure, vous avez un mot à dire sur, peut-être des conseils à donner sur les patientes qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
Si j'avais des conseils à donner à des patients qui nous écoutent, c'est de trouver le professionnel de santé avec qui elles ont envie de parcourir un long chemin. C'est important d'avoir un thérapeute dans lequel on a confiance, que ça soit un pharmacien, un orthésiste, un kiné, un médecin, quelqu'un qui puisse vous accompagner. Parce qu'à un moment donné, tout seul, on peut s'essouffler.
Mmh, bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est important. Deuxième conseil, de bouger.
Ouais.
De bouger, mais à sa mesure. Mmh. C'est pas une injonction. C'est vous aimez faire un petit peu de vélo, vous aimez marcher.
L'activité
danser,
physique est vraiment...
etc. Juste mobiliser le lymphœdème, okay. Parce que ça, c'est important.
Mmh. Donc, activité physique, à vraiment pas mettre de côté...
Voilà, mais chacun a sa mesure, pas forcément énormément, mais régulièrement.
Ok. Laurie, est-ce que t'as envie de dire quelque chose pour terminer?
Moi, j'ai envie de dire, si les gens déjà écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont sensibilisés au lymphœdème. Donc déjà, il y a un pas qui a été fait, ça veut dire qu'ils ont conscience de... de leur pathologie. Si c'est des gens qui écoutent, mais qui sont pas sensibilisés, qu'ils en parlent autour d'eux,
ouais,
pour que tous ces patients qui voient un de leurs membres enflé aient conscience que ça peut être une pathologie, qui c'est le lymphœdème, c'est pas un mauvais retour veineux, c'est pas... Voilà. D'avoir conscience que ça existe et qu'il faut le traiter très rapidement et le prendre en charge très rapidement si on veut avoir des bons résultats.
Merci pour ces témoignages vraiment poignants qui nous a amenés dans votre réalité du quotidien. Ça a été vraiment un plaisir, en tout cas pour moi, d'échanger avec vous. Donc, un grand merci à toutes les deux. Merci.
Plaisir partagé.
Pour retrouver plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet sigvaris.com ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et Instagram. En tout cas, encore merci à toutes les deux.
Merci, c'était un plaisir.
À très vite pour un nouveau podcast.